Donc on a organisé pas mal de choses. Il y a quelques années, un monsieur qui s'appelle Lionel Viard, qui est ici là-bas, que les gens ne verront pas à la radio, mais c'est pas très grave, il est là, m'a proposé d'imaginer quelque chose autour de cette bande dessinée qu'on aime bien. Et puis comme lui travaillait à la programmation culturelle de cet endroit magnifique, à la Saline Royale où on se trouve, on a vite imaginé qu'il fallait inviter plein d'auteurs, profiter des lieux, imaginer des choses. On imaginait aussi qu'il fallait proposer quelque chose au public, donc on essayait de trouver des pistes de restitution. Donc il fallait trouver quelque chose qui s'arc-boutait entre la création collective, ce qui nous intéresse, le langage, comment on peut l'explorer à plusieurs, et puis la manière d'essayer de synthétiser ça pour que le public, lui, trouve son compte. Donc des années plus tard, le projet a fait son chemin, mais l'association Shifumi continue de produire des expositions, faire des ateliers, faire de la formation, faire pas mal de choses un peu partout en France et au-delà. Et puis, quelques années plus tard, on se retrouve ici à nouveau, le temps d'un week-end pour les 24 heures de la bande dessinée, que vous connaissez bien à Radio Grand Papier, parce que vous en avez parlé à plusieurs reprises, puis parce que Grand Papier est surtout l'instigateur de la version un peu européenne de la chose.
Bruxelloise, on va dire.
Bruxelloise, mais c'est pareil, c'est européen. Hein, c'est... Et du coup, voilà, donc on avait cette opportunité et on a invité 16 auteurs à collaborer autour d'une édition des 24 heures de la bande dessinée, mais... On trouvait qu'inviter des auteurs ensemble et les faire bosser autour de la même contrainte, mais chacun de leur côté, c'est un peu restrictif. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa d'essayer de mélanger tout ça, puis de faire en sorte que les contraintes soient aussi collectives. Donc du coup, les 16 auteurs qui sont présents aujourd'hui, et jusqu'à demain, travaillent sur un projet d'envergure collective sans vraiment comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on a déconstruit le truc narratif, on va remettre les bouts dans le bon ordre avec eux, et on leur balance les contraintes petit à petit, de manière à ce que chacun produise quelque chose de très personnel, mais qui puisse s'immiscer dans quelque chose de plus global.
D'accord. Il y a d'autres événements ce week-end. Tu disais que c'était ouvert au public. Est-ce que tu peux un tout petit peu détailler
Bien entendu.
Aller chez les gens, puisqu'on est retransmis à Besançon. Donc.
Ouais, c'est vrai. Venez nous voir, gens de Besançon qui écoutaient Radio Bipo. Il y a pas mal de trucs. De 14h à 19h aujourd'hui, comme demain, dimanche, il y a plusieurs choses. Il y a des ateliers, d'abord, à destination du public. Il y a un atelier de sérigraphie qui est tenu avec des amis qui dépensent une énergie folle et puis qui mettent de l'encre partout. Ça, c'est conseillé pour le public. Il y a aussi des ateliers... des petits exercices collaboratifs de création collective. On va en faire un tout à l'heure à 18h. Ça s'appelle les 24 minutes de la bande dessinée, c'est original. On fait à peu près la même chose que les 24 heures, mais en 24 minutes, avec des contraintes aussi. Pas besoin de savoir dessiner pour essayer de s'emparer du langage en question. Il y a des projections de documentaires. On a vu tout à l'heure un documentaire sur l'auteur canadien Seth. On voit dans peu de temps un documentaire, je crois, pas du tout un documentaire, un film d'animation du coup, c'était le documentaire, c'était juste avant, dont tu es l'auteur, et d'ailleurs c'est une belle occasion de t'avoir à nos côtés pour ça. Qu'y a-t-il ? Il y a une librairie, une petite librairie éphémère qui a été montée pour l'occasion, avec un grand choix de bouquins issus du champ de ce qu'on aime, quoi, l'édition alternative, la micro-édition, la petite édition, le fanzina. Voilà, demain, donc, il y a encore des rendez-vous pour les 24 minutes, il y a toujours les ateliers, et puis demain après-midi, il y aura la restitution des 24 heures. Donc on va essayer de montrer et de partager avec le public ce qui s'est fait. On ne pourra pas tout montrer, on ne pourra pas tout faire en tant que tel, parce qu'il y a 16 auteurs multipliés par plein de pages, ça fait quelques centaines de pages, mais il y aura une petite forme de restitution qui sera doublée d'une forme de restitution de ce que des danseurs ont fait en même temps, parce qu'on accueille aussi, en même temps que les 24 heures, une troupe de 12 danseurs, qui ont voulu s'emparer du projet de la même manière que les dessinateurs, qui ont utilisé les mêmes contraintes et qui, pendant que les dessinateurs œuvrent à leur planche, travaillent sur une manière de faire 24 heures de danse sur la même contrainte. C'est une manière de... En fait, il y a ce geste qui est en commun. C'est un peu restrictif, mais voilà, on essaie de voir comment on peut relier ça et puis comment on peut passer à travers tout ça. Je crois que voilà, on terminera le week-end avec un documentaire à 17h30 consacré à l'auteur américain John Porcellino, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et puis voilà, ces petits rendez-vous.
Jaune. Merci June.
Merci à vous d'être venu jusqu'ici. À merci à Radio Grand Papier.
Bonne chance à tous les auteurs qui sont en train de suer en ce moment. Mais voilà, nous on va en extraire quelques-uns. On en accueille 3 aujourd'hui, puis on en accueillera 3 demain. Voilà. Salut June.
Salut, merci.
Salut. Salut, bon boulot.
Alors, on a dit qu'il y en avait combien des auteurs ? 16, je crois, qui se mettent à dessiner. On ne peut pas les accueillir tous les 16. On a fait un petit choix. Déjà, on a retiré des gens qu'on a déjà eus à la radio il n'y a encore pas très longtemps. Et on essaie de voir des têtes nouvelles. Et donc, dans les nouvelles têtes, les gens avec qui on n'a jamais eu l'occasion de parler encore, il y a Christophe Bataillon. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Alors, je laisse la parole à Maxime qui va un petit peu resituer ton travail et puis te faire parler un peu du début d'expérience.
Okay. Voilà. Que tu es en train de vivre. Et donc,
Toi, tu as un travail qui est plutôt entre la bande dessinée et le dessin, le livre jeunesse.
Ouais, tout à fait. Mmh. Et moi, c'est un peu particulier parce que c'est la maison des auteurs d'Angoulême qui m'envoie pour espionner ce que fait Shifumi.
D'accord, voilà. C'est carrément de l'espionnage.
C'est de l'espionnage industriel.
C'est-à-dire, ouais, t'es né en 1979 et t'as fait les Beaux-Arts d'Angoulême et juste après, t'as fait la Maison des Auteurs.
Ouais, moi, je suis arrivé dans le projet de la Maison des Auteurs au tout début. Et du coup, on a organisé les 24 heures de la BD en 2007 pour la première fois. D'accord. Et moi, j'ai fait partie de la première équipe. Et là, ce que disait June juste avant est vrai. On a aussi vu une sorte de lassitude au sein des 24 heures de la BD d'Angoulême. Même les professionnels commencent à être un peu usés, plus personne ne veut le faire. Même Boulet ne le fera pas cette année, Trondheim est démissionnaire. Et on se pose la question, on a un bel outil, les 24 heures de la BD, c'est un bel outil. Et il y a toutes les écoles qui participent. Moi, j'ai plein de copains profs qui, pendant toute une nuit, surveillent leurs élèves. Et donc, moi, j'ai dit à la direction de la Maison des Auteurs que c'était dommage de supprimer purement et simplement les 24 heures. Sauf que c'est un projet qui coûte de l'argent et du coup, on est en train de voir comment sauver les 24 heures de la BD d'Angoulême. Et c'est pour ça que je suis ici.
Ok, toi tu fais partie de l'organisation des 24 heures avec la Maison des Auteurs.
Non, on va dire qu'ils ont demandé aux plus masos d'entre nous, ceux qui avaient fait le plus d'éditions depuis 2007. Et c'est vrai que du coup on est quelques-uns à être très très masos. Et moi je les ai toujours faites à Angoulême, sauf l'année dernière, pour des raisons personnelles où j'étais un peu fatigué, j'avais plus envie de le faire. Ouais.
Ok. Quand tu dis le plus d'éditions, c'est-à-dire que tu as été le plus éditeur ou que tu as le plus édité ?
Non, j'ai le plus participé.
Ah
non,
oui.
Tu étais un gros routier des 24 heures.
Un vieux routier, ouais.
D'accord.
Mais toi-même, tu ressens pas du tout la lassitude, c'est-à-dire qu'en effet, les premières fois qu'on fait les 24 heures, on se dit « est-ce que je vais y arriver ?» Et puis à un moment donné, on sait qu'on va le faire.
Oui, on sait qu'on va le faire, mais en fait, moi je le prends comme un exercice, un truc où il faut s'amuser, où je vais pas faire la même chose que le reste de l'année, où je suis à mon atelier, où je travaille. Donc je vais, une année, j'avais pris des photos d'un frigo et j'avais fait mon histoire se dérouler dans le frigo. Du coup, enfin voilà, c'est un exercice. Je le prends vraiment comme ça et je me mets pas trop de pression. Sauf les années précédentes où je l'ai fait avec mon ex-copine et là on s'est engueulé comme des malades et là on rajoutait de la pression.
Il y a des auteurs qui constatent qu'après ce genre d'expérience, on sait faire 24 pages en 24 heures, ça t'amène à puiser dans des ressources que c'est tu n'as physique, pas nécessairement en atelier. Ouais. Parfois ça les amène à trouver des solutions, à renouveler une manière de dessiner tout ça. Est-ce que toi, malgré le fait que t'aies fait plein d'éditions, par exemple un week-end comme ce week-end, tu viens en te disant il va peut-être se passer un truc graphiquement ou au niveau de la narration?
Moi c'est pour ça que je viens et c'est pour ça que ce que propose l'asso Shifumi est hyper intéressant pour nous parce que du coup on est sur presque un travail dirigé. Moi depuis les quelques heures que je suis là, je joue le jeu et June nous donne les consignes au fur et à mesure, donc on est presque de retour à l'école quoi, avec quelqu'un qui nous drive, c'est très enrichissant pour nous qui tous les jours travaillons 9h, 10h, 11h par jour dans notre atelier, des expériences comme ça et en plus dans ce lieu c'est incroyable pour nous.
Qu'est-ce que vous avez, en fait on n'a pas détaillé les contraintes avec June, tu peux nous raconter
alors,
un peu
Il y a eu un film psychédélique qui a été diffusé, on nous a demandé de nous inspirer de ce film pour créer un personnage. Ensuite, entre les 16 participants, on a redispatché le personnage qu'on avait créé. Et là, la première partie des consignes, c'est de faire 8 pages avec ce personnage imposé par les autres participants.
Mais du coup, vous avez déjà une deadline pour faire ces 8 pages ?
À 19h, on doit avoir rendu les 8 premières pages. D'accord. Et je pense qu'après, je ne sais pas ce que nous réserve cette édition, mais je pense qu'après, on va devoir continuer une histoire pour arriver à 24 pages.
Ok, et donc ça va faire une histoire qui va réunir tous vos travaux.
Oui, c'est ça, une histoire en commun avec 4 auteurs.
C'est quelque chose que tu avais déjà fait de travailler comme ça
À l'école, à Angoulême. Ouais, à Angoulême, on avait ce genre d'exercice. Moi, personnellement, ça avait été un défi de faire un bouquin avec plusieurs copains qui racontent une seule et même histoire, mais c'était il y a presque au siècle dernier, donc on ne va pas en parler, mais ça a toujours été... C'est des exercices très difficiles de se coordonner. Donc là, peut-être qu'avec l'énergie des 24 heures, on va arriver à un résultat, mais peut-être qu'il sera bien.
Espérons. Mais moi, je suis passé dans la salle tout à l'heure et c'était super sérieux. Il n'y avait pas tellement d'échanges, en fait, entre les différents auteurs. pour l'instant en tout cas.
En règle générale, les 24 heures, c'est sérieux. On est dans un métier sérieux. On est des gens sérieux qui ont mal au dos, quoi. C'est ouais. Pour dessiner, on a besoin de concentration. Je pense pas qu'on ait besoin d'être très intelligent, parce que... mais je pense qu'on a besoin de concentration. Et c'est vrai qu'on a les danseurs juste à côté. Du coup, on a le son de leur pas. On a la musique. C'est très agréable. Et on s'est quand même dit tout à l'heure, ah, ils ont l'air de plus s'amuser que nous.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucun échange en fait entre vous pour l'instant sur la la globalité de l'histoire. Vous avez pas,
non,
c'est June qui a en tête l'idée c'est de la globalité et vous avez
pour
juste
l'instant, c'est le premier pas. Donc je pense qu'on va échanger après. Pour l'instant, là, on est vraiment à H plus 4 de l'événement, donc on est encore dans nos scénarios. Voilà, mais bon, il y a cette deadline de 19h. Rigoler.
Tant qu'on est au micro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail? Parce que nous, à Radio Grand Papier, donc on est là pour les 24 heures, mais c'est souvent dans le cadre de nos émissions, voilà, on a des gens à l'antenne, on aime bien.
Ce qui m'intéresse, je fais des bandes dessinées pour. Alors, je travaille pour Spirou. C'est Spirou qui va payer le loyer. Le journal de Mickey, beaucoup de presse. Je fais des livres pour enfants quand j'ai le temps. Mais du coup, j'ai pas encore de projet BD, j'ai jamais sorti. Parce que, à mon avis, il va me falloir 2 ans pour faire une bande dessinée et qu'elle aura 2 semaines de vie sur la table. Donc, je suis sur l'illustration jeunesse, qui, à mon avis, est un marché un peu plus calme où les libraires ont plus le temps, même s'il y a beaucoup de nouveautés. On est quand même sur un réseau de passionnés. Donc, je fais de la bande dessinée uniquement dans Spirou. Et ma spécialité, c'est d'être ludologue. Ça veut dire que je suis créateur de jeux. Et donc, cette faculté m'amène à faire des labyrinthes graphiques, par exemple. Travailler sur le sens de lecture d'une histoire. Et à ce titre, donc, je suis très proche d'Étienne Le Croart, qui est à Loubapo. Et du coup, je suis dans le nouveau recueil, là. Enfin, voilà. Et ça va être pour ça qu'un exercice comme les 24 heures de la BD va m'intéresser, parce que j'aime bien jouer avec le format, j'aime bien jouer avec le sens des lectures, même si tout ce que je suis en train de dire, je ne le fais pas du tout dans l'exercice en haut, là, en ce moment. Mais voilà, donc moi, je vais être plutôt rattaché à un courant oubapien. Voilà mon travail.
Après, moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y a quand même eu toute une partie de ton travail. Je pense que tu as été remarqué pour un blog à un moment.
Oui,
Intempérie, c'est
ouais,
ça
ouais, en 2005, au tout début du blog, ouais, c'était une belle vitrine. Où, mon frère m'avait dit, il faut que tu aies une vitrine sur Internet. Et le blog, à cette époque, était la meilleure vitrine pour moi. Et du coup, Spirou est même allé jusqu'à publier mon blog, à m'envoyer au Vietnam, à publier les récits du Vietnam. Enfin, ensuite, le rédacteur en chef s'est fait virer. Et du coup, on avait bien rigolé à ce moment-là. Et du coup, maintenant, Spirou est dans une formule très balisée, avec très peu de rédactionnel. Mais le rédacteur en chef fait du bon boulot, je pense, depuis quelques années. Là. Il fait du bon boulot sur Spirou, ouais.
Mais du coup, à l'époque, c'était de la bande dessinée beaucoup plus classique. Enfin, c'était autobiographique. Tu dessinais en quelques traits, comme ça, des personnages avec pas mal de textes. Et tu racontais des histoires. C'est un peu dans ce style-là que tu fais les 24 heures maintenant ?
Non, pas du tout. En gros, à l'époque, je racontais ma vie comme tout le monde. Moi, j'avais lu L'Olmed et...
Trondheim
pas trop à l'époque. C'était surtout L'Olmed. Moi, j'étais fasciné par ce mec.
Ouais, on l'oublie un peu, mais c'est quelqu'un qui a lu ça marque parce que c'est quelqu'un qui était capable de développer un quotidien des plus plats.
Ah, fantastique. Et d'en faire quand il allait acheter un croissant, ça devenait une aventure. Quand il croisait un SDF, Laurent L'Olmed est quelqu'un qui chope quelque chose dans l'air du temps. Je pense qu'il. Enfin, moi, je suis fan. Si vous connaissez pas son œuvre, foncez. Il continue à faire du fanzine, à les vendre par correspondance. Ce mec est brillant, mais il a du succès quand même. Là, depuis quelques années, il est dans l'eBay et tout.
C'est un succès relatif.
Et donc, je partais en voyage et du coup, je racontais ma vie en voyage. Et c'est vrai que ça intéressait des gens. Je continue plus ou moins ce travail. Il y a certains magazines qui me demandent ce travail. Je travaille pour Lilo, qui est un petit... tous les mois à Paris, on a un petit culturel gratuit, où là, ils me demandent de raconter ma vie. Il y a Pif qui m'a appelé. Et du coup, là, maintenant, je vais raconter ma vie dans Pif. Voilà, c'est une façon de faire du reportage dessiné. C'est à la mode en ce moment.
Tu fais pour les enfants. Oui, c'est ça, c'est marrant.
Moi, j'ai choisi cette cible des petits. Les adultes ne m'intéressent plus trop. Je ne vais pas réussir à les changer. Mais les petits, ils sont quand même fascinants. Ils ont une spontanéité. Quand ils trouvent ça mal dessiné, ils te le disent. Quand ils s'ennuient, ils te le disent aussi. Donc, moi, ça m'intéresse. Ouais.
Ok, super. Bah, on va te laisser repartir.
Et bah, super, super. Et je suis très content d'avoir été parmi vous parce que j'écoute Radio Grand Papier.
Oh.
Et je mets des visages sur les voix. Ça fait très plaisir. Merci.
On
n'est
pas tous là, malheureusement.
Non, merci
à
toi.
Bon boulot.
Super.
Eh bien, pour poursuivre, nous recevons, je te reprends la parole,
mais
hein,
bien
Johanna.
Bien sûr, Stéphane.
Nous recevions Oriane Lassus. Alors, comment est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit Lassus ?
On dit Lassus.
Lassus, ok.
Oui. Ça vient du sud-ouest et on prononce les S fines, nous, là-bas.
Ah. C'est bien, je pense qu'il y a 2 ans, à Grand Papier, on avait commencé l'interview exactement comme ça. C'est possible, je ne me souviens pas.
Et en disant qu'elle avait dû subir des blagues graveleuses pendant un certain nombre d'années.
Dans mon dos, sûrement, parce que très peu en face.
Très peu en face, quoi.
T'étais peut-être entouré de gens vraiment intelligents, c'est merveilleux.
Non, c'est à cause de son physique de camionneuse. Regarde, vous ne la voyez pas, mais ici en studio, on la voit, elle fait 1m80 et...
Peur.
Elle fait très, très peur. Alors, tu es plutôt jeune, et en fait, tu n'es pas vraiment baraqué. Et tu as fait tes études à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Est-ce qu'il y avait une section bande dessinée ?
Pas illustration.
Du tout. Donc, c'était bien l'illustration. Ouais. Je m'étais dit, ça doit être ça. Mais...
Et oui.
Je me dis, peut-être qu'elle a fait textile ou un truc de ce genre-là. Et en fait, pas du tout.
Non,
tu as bel et bien fait ça.
Ouais.
Alors, on t'a connu, on est rencontré autour de Ça va derrière, qui était publié aux éditions Vraoum en 2012.
Oui.
Warum.
C'était
Vraoum.
C'était Vraoum en fait à l'époque encore.
Une collection
encore.
De Vraoum.
Ouais. Et donc voilà, ça n'a jamais été très clair du côté de chez Vraoum. Je crois qu'ils s'en veulent un peu d'avoir choisi ces noms et d'avoir changé en cours de route des lettres interverties.
Vraoum, c'était l'édition blog, c'était la. Enfin, non, pas exactement.
Vraoum, c'était la collection dans Vraoum qui était censée être un peu plus légère et qui était plus dirigée par Vendry, alors que Vraoum à la base c'était Vendry et Benoît Pretzel. Ensuite, Bruno Pretzel est parti, et Vendry a récupéré tout, et Vraoum et Vraoum continuent d'exister, les deux. C'est pas exactement le même type de bouquin, quoi.
Ouais.
Voilà.
Alors, ensuite, depuis, on a vu de toi des tas de choses, mais en fait, on te suit surtout sur ton blog, un peu sur chez nos amis de Arbitraire. Tu publies un peu à droite, à gauche, comme ça, tu places des choses, et notamment donc chez Biscotto aussi, où tu as fait des apparitions dans le journal. On en parlait le mois passé, on a reçu les gens de Biscotto, et donc tu participes là-bas. Et donc, ça veut dire que c'est aussi une activité qui ne doit pas faire rentrer du beurre à mettre sur les épinards que tu dois acheter avec l'argent de tes parents.
C'est ça, exactement. Exactement.
Mais pour notre plus grand bonheur, on peut suivre une production sur spongiculture.net, donc qui est ton blog, et sur lequel tu mets des récits plutôt longs en fait. C'est pas un blog au sens où on entendrait tiens une petite planche par-ci, une petite planche par-là. Tu as fait depuis quelques années des choses qui sont plutôt au long cours comme ça, dans lesquelles tu te lances surtout sur base de musique, sur des explorations qui en fait ont une forme d'honnêteté assez grande puisque tu pars d'un fait divers. Tiens, j'entends cette musique me rappelle un souvenir d'enfance, si je reprends le dernier récit qui est posté dessus. Et puis de là, tu vas commencer à tirer un espèce de fil en disant, tiens, d'où ça vient. Et plutôt que de nous la jouer, genre, je suis très intelligente et je vous dire d'où vient toutes ces choses, tu nous montres comment tu fais une recherche internet pour retrouver les trucs. Donc tu te décris toi-même comme partiellement vaillante à la recherche. Donc c'est pas comme si tu allais en bibliothèque, tu compilais, etc. Mais en même temps, tu fais un boulot relativement honnête de recherche sur internet, passant de Wikipédia à d'autres sites plus pointus pour compiler une information que tu livres sous une forme qui est celle d'un blog, c'est-à-dire une page continue qu'on peut suivre avec parfois des endroits où on se dit tiens, mais où sont les ruptures de page, il n'y en a pas vraiment, etc. Quelque chose qu'on peut retrouver chez d'autres auteurs de blog, mais qui fonctionne assez bien pour toi, puisque tu as vraiment un système très déstructuré, pas du tout des cases adjacentes, mais des moments où on a de grandes illustrations, des petites illustrations. Alors au niveau stylistique, on est dans quelque chose qui est assez lâché, qui est à la fois feutre, plus des grandes masses de noir au pinceau, frotté, ce genre de choses, du texte qui est placé et qui est entremêlé avec l'image, des essais stylistiques, et on a l'impression que cette matière que tu compiles est aussi l'occasion de dessiner d'autres trucs. Par exemple, il y a un moment donné où tu essaies de réduire Serge Gainsbourg à quelques traits. On a que ses yeux et son nez. On se dit, ah tiens, oui, c'est Serge Gainsbourg. Donc, elle a quand même réussi à choper Serge Gainsbourg. Est-ce que c'est pour toi une forme d'exploration qui te permet de faire du dessin d'après-modèle Internet ou quelque chose comme ça ?
Là, c'est vraiment plutôt une contrainte parce qu'en fait... dans cette série que je suis en train de faire, qui est infinie, j'avais vraiment envie de parler des musiques que j'écoute en boucle, donc les musiques qui m'ont obsédée ces dernières années, sur lesquelles j'ai bloqué. Et je suis partie à chaque fois en me disant je vais faire un petit truc rapide, mais du coup mes recherches m'ont toujours portée hyper loin et je me suis à chaque fois rendu compte que je découvrais plein de trucs vraiment passionnants que j'avais envie de partager, de lier, de leur donner un sens et une forme. Et donc le problème, c'est que souvent, je me retrouve avec des tonnes de textes et des tonnes de choses à dire et très peu d'images. Parce que je suis vite dépassée par la somme d'informations et c'est assez dur de l'exploiter. Donc comme je suis quand même du côté du dessin, j'essaye de pas être que dans du texte. Et du coup, ouais, je me suis retrouvée à faire pas mal de portraits, mais alors c'est pas forcément une grande joie pour moi. Ah. C'est pas forcément toujours une grande réussite à mon sens, mais après, c'est parce que j'ai eu les photos sous les yeux et que je vois à quel point c'est raté d'un point de vue, pour moi, de réussir à saisir vraiment le visage de quelqu'un en quelques traits. C'est assez difficile, mais après, j'ai pas forcément envie justement de faire du portrait réaliste, donc je reste dans des trucs très rapides et je refais rarement. Enfin, il faut vraiment que ça me déplaise énormément pour que je recommence, mais voilà, je suis pas toujours très satisfaite des portraits. Mais j'aime bien faire ça, j'aime bien faire du dessin d'observation, des trucs d'après photo, mais c'est assez difficile quand même.
Voilà. Oui, il y a surtout que tu essaies de structurer un peu l'information, donc tu fais des schémas avec des lignes où tu essaies. J'aime beaucoup ce moment où tu parles de l'origine de qui est ce petit chien. Non, c'est un autre truc sur la musique italienne comme ça, où à un moment donné tu... Ouais, tu me le remets, donc tu parles de... Ah oui, c'est le chien dans la vitrine, en effet, dans lequel tu essaies de retrouver de la trace de la musique et tu montres que tu fais des recherches, ça donne zéro résultat sur Internet, de là, il y a trois flèches qui partent, etc.
Mais voilà, je trouve que c'est super bien, justement, dans ce format du blog, en tout cas de visuel, c'est que là, j'avais que du texte, mais je réussis à l'agencer d'une manière qui lui donne un sens et pas être dans des séries de phrases hyper longues. Je trouve qu'on comprend vachement mieux ces informations-là avec un schéma. Ce qui est assez chouette parce que ce serait hyper difficile d'expliquer avec des phrases, alors que là c'est agencé de manière tout de suite assez claire.
Et puis parfois, la filiation, ça renvoie vers des liens YouTube.
Voilà. C'est aussi l'intérêt du multimédia, toutes mes recherches en fait sont dans le post au final puisque je peux les lier facilement.
Ouais. Oui, d'ailleurs, tu es assez généreuse puisque on peut écouter des morceaux de musique la plupart du temps quand tu as réussi à les choper, soit sur YouTube, soit dans un système libre de droits. Tu les lis de telle manière à ce qu'on puisse les écouter.
Non, alors pour les droits, je n'ai jamais cherché à être, légale et j'espère que ça reste dans l'ordre de la citation.
De quoi ? Tu uploads les morceaux et tout ça ?
Ouais, ouais.
Waouh, quel brut.
Mais voilà, après, l'idée c'est de partager des choses. Donc,
mais on espère pouvoir continuer à te revoir l'année prochaine.
Je serai peut-être en prison.
Et ta mère,
on
viendra te rechercher, on t'apportera des oranges. Alors, le système narratif que tu mets en place était déjà présent en partie dans Ça va derrière, puisqu'on avait un système dans lequel tu essayais de restituer, non pas pour rappel un peu, pour repitcher ce livre dont on avait parlé à l'époque. Donc Ça va derrière raconte deux voyages, non pas exactement deux voyages, en tout cas le souvenir de voyage d'enfant. Donc souvenez-vous quand on part vers le midi de la France et que ça prend des heures et qu'on se prépare et qu'on a oublié d'éteindre le gaz et puis qu'on est sur la route et qu'on a mangé trop de bonbons et qu'on a, à cause des tournants, on risque de vomir, etc. Toutes ces sensations-là, et tu les restituais par un dessin... De nouveau, assez nerveux, qui mélangeait, qui était plutôt au trait, massivement au trait, et dans lequel tu essaies de retranscrire non seulement le fil narratif, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, donc la manière dont tu restituais la voiture. Par exemple, on ne voyait pas les carrosseries, mais on était plongé dans l'intérieur. On avait d'un seul coup l'impression que le siège arrière devenait très grand. La distance entre toi et ton frère qui te fait chier, ça grandit parce qu'il s'endort, etc. Donc il y avait quelque chose dans la restitution de l'émotion qui est assez présent, et ici, tu retravailles sur le blog des choses qui sont similaires, où tu essaies de retranscrire quelque chose qui est ton plaisir de l'écoute, la sensation. Tu essaies de parler de tiens, le chien jaune dans la vitrine, comment je me le représentais. Donc il y a une manière d'essayer de restituer quelque chose qui est une impression quasiment impossible à retranscrire sous forme d'image, ou alors par des images assez fugaces. Donc il y a... Est-ce que tu es actuellement en train de travailler sur quelque chose qui va être publié ailleurs? Parce que
finir un livre qui va être publié chez Arbitraire.
Ah, Arbitraire, mais comme ils sont bons.
Oui.
Et qu'est-ce que ça va être?
Ça s'appelle Quoi de plus normal qu'infliger la vie?
Et c'est eux qui imposent les longs titres?
Non. Non, c'est moi, c'est mon plaisir. En fait, c'était un travail que j'avais fait au Beaux-Arts en dernière année. Et c'est Juliette d'Arbitraire qui l'a lu et qui m'en a parlé depuis super longtemps en me disant « Ce serait bien que t'en fasses une bande dessinée. » Et voilà, donc ben pendant 2 ans, j'ai dit ouais, je vais commencer. Et pendant ces 2 années-là, j'ai participé à plein de, tu vois, des revues pas payées. J'ai publié des planches par-ci, par-là, dans plein de trucs. Donc, je me suis un peu dispersée. J'ai fait plein de choses, donc je suis assez contente. Mais j'ai aussi gagné 0 argent avec ça.
Et on sait qu'arbitraire, il paye rudement bien.
Oui, bon, faut pas déconner, mais... mais voilà, cette année, j'ai dit, je fais plus rien de pas payé, je fais mon livre et je l'ai fait, voilà.
Et ça parle de quoi? Tu peux nous pitcher un peu?
Oui, mais ça parle de pas vouloir faire d'enfant. Voilà, c'est...
Tu veux dire qu'il y aurait une sorte de pression comme ça sur les femmes quand elles disent qu'elles veulent pas faire d'enfant?
Éventuellement, oui. Oui, voilà, c'est le sujet. Et aussi sur les gens qui veulent des enfants, d'ailleurs, mais qui a une pression très forte ces questions-là.
Et ça, cette question, tu travailles déjà alors que tu es encore à l'école?
Oui, parce que je n'ai jamais voulu d'enfants. Et à cette époque-là, ma sœur a eu sa première fille. Et donc, j'étais allée chez elle pendant assez longtemps. On avait beaucoup discuté de ça pendant qu'elle était enceinte. Et j'étais ressortie de là complètement perplexe par rapport à ce qu'elle me racontait. C'est-à-dire, en gros, que j'allais changer d'avis, que c'était les hormones. Et je trouvais que c'était dingue. Bon, déjà de la part de ma propre sœur, de n'importe qui, cette idée que quand tu dis que tu veux des enfants, les gens ne disent pas mais tu vas changer d'avis, quelle idée bizarre, mais quand tu dis que t'en veux pas, tout le monde sait bien que tu te trompes et que ça viendra, t'inquiète pas. Et je suis pas d'accord avec ça. Alors évidemment que je peux changer d'avis, mais c'est à moi de le décider au moment où je le déciderai. Voilà,
je crois que c'est chaque génération, 10% de femmes n'ont pas d'enfants.
Peut-être.
Comme ça, il y a une statistique.
C'est constant.
Et je crois que c'est constant, ouais, pour des tas de raisons.
Mais tu vois ce que tu dis, des femmes qui n'ont pas d'enfants. Mais
quant aux hommes,
les hommes, ils ont
les hommes
enfants,
ne portent pas d'enfants. Je suis désolée, les filles, mais, mais on va changer ça. J'y travaille personnellement. Alors, tu as une histoire assez longue avec Pierre Feuille Ciseaux. C'est pas la première fois que tu participes à quelque chose avec eux. Tu peux nous en dire plus?
Eh ben, j'ai la première fois que je suis venue ici, c'était pour Pierre Feuille Ciseaux 2. J'étais en 4e année de Beaux-Arts et je devais faire un stage d'une semaine. Et donc j'avais entendu parler de Pierre Feuille Ciseaux 1 et je m'étais dit ça a l'air génial, j'ai trop envie d'y aller, sauf que j'étais à Bruxelles, c'était un peu loin, je pouvais pas venir. Et donc la 2e année, je devais faire mon stage, j'ai envoyé un mail à June, que je connaissais parce qu'il était libraire à Besançon, où j'ai grandi. Et donc c'était le libraire chez qui j'allais acheter des bandes dessinées quand j'étais au lycée. Et donc je lui ai envoyé un mail en disant « Rappelle-toi, maintenant je suis étudiante aux Beaux-Arts, je dois faire un stage, est-ce que je peux venir à Pierre Feuille Ciseaux ?» Il m'a répondu « Oui, écoute, je sais pas, on n'aura rien à te faire, mais on peut se rencontrer, en discuter. » Et on s'est rencontrés, on en a discuté. Il m'a dit « D'accord. » Et du coup, je suis allée là-bas pour faire un carnet de bord, une sorte de carnet de voyage sur place pendant une semaine. C'était super. Et l'année d'après, j'étais invitée en tant qu'auteur, ce qui était une consécration totale.
Bon. C'est ça. Et qu'est-ce qu'une expérience comme Pierre Feuille Ciseaux vient apporter par rapport à ta pratique à toi, que tu décrivais déjà comme émiettée? Pourquoi est-ce que tu es là cette année?
J'avais jamais fait les 24 heures de la bande dessinée, ce qui me semblait assez fou. J'avais assez envie d'essayer, donc c'était l'occasion, quoi. Voilà.
Et comment ça se passe?
Ben, je suis très en retard, mais ça va. C'est bien. Après, moi, j'ai l'habitude de dessiner très vite, donc ça, c'est pas un souci. Ce qui me prend le plus de temps, c'est de réfléchir. Et là, l'avantage, c'est que les contraintes sont quand même assez...
carré.
Ouais, et ça aide beaucoup à commencer. On a dû commencer par dessiner un personnage chacun. Donc ça fait que tu te demandes pas par où tu dois y aller, tu es obligé de faire ton personnage, tu le rends dans une demi-heure. Ça permet de vraiment découper la journée en plusieurs étapes et donc d'être moins avec un 24 immenses heures qui vont passer très vite. Donc c'est pas mal. Voilà. Mais je suis quand même en retard parce qu'on a mangé et tout ça.
Oui, c'est ça. C'est quand même à la française.
Et en plus, tu vas à la radio et tout ça.
Voilà, tout ça. Ouais, les parents qui sont venus, j'ai dû aller leur dire bonjour. Voilà.
Quelle est la différence entre le type de... Ah oui, tu ne peux pas dire. En fait, j'allais poser des questions par rapport aux 24 heures, mais en fait, ça ne sert à rien. Mais on peut quand même parler de ce rapport entre ce bouquin que tu vas publier là bientôt chez Arbitraire. Et j'ai l'impression que le style déroulé que tu utilises sur le blog, cette façon de pouvoir faire scroller à la verticale quasiment sans rupture, est assez différent quand on travaille sur du papier. D'un seul coup, on doit réfléchir au gauche-droite, à la tension que ça produit quasiment mécaniquement. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as d'en aviser, ou alors est-ce que le blog c'est un plaisir quasiment coupable?
Non, pas du tout. J'aimerais vraiment pouvoir développer un travail numérique encore plus conséquent, mais C'est pareil, ça demande du temps et je ne l'ai pas encore trouvé, mais c'est un projet pour une exposition qui aura lieu en décembre à Vendetta, si tout se passe bien.
Ah, qu'est-ce que ce sera ?
On va faire une exposition autour du journal que j'avais fait chez Superstructure en 2013. Voilà. Et j'aimerais faire un projet numérique qui soit lisible sur un ordi pendant l'expo. À suivre. Mais du coup, non, c'est quelque chose que j'adore faire et que je fais assez instinctivement pour le blog, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je pratique. Donc le scroll vertical, ça fait qu'on se pose pas forcément énormément de questions. On sait qu'on a une place en largeur assez délimitée et après les choses s'empilent les unes sur les autres. Et du coup, c'est assez simple pour moi de le mettre en place. Et quand je bosse sur un livre... Je pense que pour Ça va derrière, j'avais vraiment beaucoup réfléchi au vis-à-vis, aux doubles pages, mais que pour le bouquin que je viens de finir, j'ai pas du tout le même genre de réflexion. C'est assez fragmenté comme projet. Il y a plein de mini-scénettes, donc c'est aussi quelque chose qui s'est fait un peu en s'empilant. Enfin, et du coup, j'ai pas vraiment d'énormes différences dans ma manière de travailler entre les deux, à part que quand je bosse pour le blog, c'est vrai que le format il est super variable et c'est pas gênant. Tandis que sur papier, il ne faut pas déborder parce qu'il n'y aura pas beaucoup plus de place. Quoi.
Mais pour le blog, tu travailles sur des feuilles de papier libre et puis après, tu colles sur numériquement.
Ouais, Photoshop, quoi, j'empile.
Et donc, pour terminer un peu, parce qu'on va te renvoyer au travail quand même.
Merci.
Il y a... Merde, j'ai oublié ma question, du coup. Je voulais poser une question par rapport à... Oui, quels sont les trucs qui arrivent ? Parce que là, tu viens de terminer un truc, tu as cette exposition.
Ouais.
Et oui, c'était une question autour du fragmenté. La manière dont tu travailles par fragments, tu viens d'énoncer, d'évoquer ça, il marche très, très bien dans le blog parce que tu montres la manière dont... En fait, qui est assez contemporaine, la manière dont on agrège l'information. C'est-à-dire qu'on on voit un film, on se dit, tiens, c'est pas mal. Hey, l'acteur, il me semble que j'avais déjà vu quelque part. On fait une recherche, on tombe, du coup, on lit un peu sa bio. Il a rencontré telle date, tiens, il était en couple avec cette nana, on cherchait cette nana, etc. Donc on se retrouve comme ça, agrégé de l'information, parfois en effet de manière assez conséquente sur un truc précis, mais par petits liens, par liens hyper liens, par petits. Et donc c'est quelque chose, c'est une façon que tu sembles utiliser dans la manière même dont tu racontes. Mm-hmm. Est-ce que les projets d'avenir vont dans ce sens-là aussi Ou est-ce que tu vas faire tu ne sais pas très bien. Ou est-ce que c'est du récit continu dans lequel on va travailler un scénario ou des choses comme ça ?
Eh bien, pour ça, il faudrait que je sache ce que je vais faire après et j'en sais encore pas grand-chose. Mais voilà.
Ok.
C'est un peu comme ça vient. Et là, pour l'instant, j'ai plusieurs choses hypothétiques pour le futur, mais très proches, pas vraiment. Donc voilà, je vais laisser... J'ai plutôt tendance à laisser les choses venir à moi plutôt qu'avoir plein de projets tout prêts que je peux entamer. Donc voilà, mais on verra.
Ok, bien. On te renvoie au travail. On espère que tu vas faire du bon boulot. Et on te dit à bientôt.
À bientôt.
Salut.
Salut.
Alors, maintenant, on accueille Émilie Gleason. Ça
Gleason,
comme ça,
oui.
Waouh, je l'ai presque bien dit. Alors, c'est moi qui vais te poser quelques questions. Hein. Donc, on disait, tu n'étais pas encore arrivée, mais qu'on avait fait une petite sélection parce qu'on ne pouvait pas interroger 16 auteurs. Mais donc, voilà, on s'est arraché les cheveux hier soir.
Bah,
qui
quel honneur.
Qu'on va choisir. Alors, toi, tu es passée par les Arts Déco de Strasbourg.
Oui, j'y suis toujours.
J'ai vu que tu étais née en 92. Alors, je dis souvent qu'en ce moment, je prends des coups de vieux, mais alors là... 92, pardon. Enfin bon, 92, 92. Donc tu n'es pas bien vieille, tu viens tout juste de sortir des Arts Déco, finalement t'es sortie...
Non, je passe ma dernière année en ce moment.
Ah oui, tu y es même encore.
Oui, j'y suis encore, la dernière et ultime année.
Et quand on essaie de voir un petit peu qu'est-ce que tu fais, tu as l'air de pondre du fanzine, une sorte de jet continu comme
foison,
ça,
ouais,
tu as un Tumblr foisonnant... Alors pour les gens qui ne voient pas ton travail, moi j'ai un peu vite pensé à Vincent Gière, je ne sais pas si tu vois.
Si, je le connais très bien.
Et puis un peu un mélange Marshallot, un peu pour l'esprit parfois.
Ah ouais.
Et en même temps Aïcha France aussi, pour le côté un peu travail au crayon, parce que parfois tu peux avoir des boulots un peu potaches, et puis parfois tu peux avoir un boulot d'illustration un peu plus... gracieux, avec une mise en couleur. Enfin voilà, on alterne entre différentes choses. On voit aussi que effectivement tu fais des fanzines sur des Mickey qui pètent
et qui se font exclure.
Et puis oui, en effet, à un moment tu dis non, maintenant j'ai envie de faire des trucs un peu plus didactiques et tu vois Cowspiracy qui est un documentaire et là tu fais un fanzine sur le désastre bovin et comment c'est il faut arrêter de manger de la viande. Mais on sent que tu es un peu gêné aux entournures avec ça parce que, bah, évidemment, c'est moins. On peut un peu moins rigoler, quoique tu t'en sors pas mal parce qu'on sourit quand même en lisant.
J'essaie justement de prendre le sujet avec humour. Et...
Donc voilà. Et donc tu essayes un peu plein de choses. Dreams est un autre fanzine où on a un rêve, un dessin. Ouais. Donc là, des fois, je crois que j'aimerais bien avoir quelques explications. Hein. Enfin, tu vois un rêve et tu dis alors. Est-ce que c'est elle qui se fait tuer ou alors elle voit que quelqu'un se fait tuer? Mais bon, c'est quand même un assez chouette travail. Tu fais aussi des tutoriels sur comment survivre dans des situations embarrassantes ou par rapport à des trucs pratiques, hein, comment dormir dans un bus ou des choses comme ça. Y a des choses vraiment très drôles, mais je suis très étonnée par la densité de ton travail. On a vraiment l'impression que c'est un jet continu. Et alors aussi, on a l'impression que tu mets peu de filtres finalement, que les choses sortent. Cette histoire de Mickey qui pète, c'est vraiment un scénario qui est très bousculé comme ça.
Ah, il n'y avait pas de scénario là.
Voilà, alors c'était ma question, c'était comment tu construis, ou est-ce que tu construis, ou est-ce que...
Mickey Boule était ma première BD et je ne savais absolument pas ce qui allait se passer à la case suivante.
D'accord.
Je me suis dit, je vais juste mettre ce que je pense et on verra si ça donne quelque chose de probable à la fin. J'étais persuadée que ça n'allait pas se vendre, que ça n'allait pas plaire parce que c'était vraiment absurde du début à la fin, mais... Mais oui, après, j'ai décidé plutôt de construire et de passer un message à travers mes BD. Donc, c'est intéressant de travailler dans les deux. Donc, j'essaye de jongler de manière à avoir un travail construit et long. Et à côté, de faire des petits fanzines comme Cowspiracy, qui m'a mis... j'ai mis un jour à le dessiner pour... quand tout sort d'une rage et tout vient des tripes. Ça
d'accord.
Fait du bien.
Je ne sais plus si je l'ai lu ou si je l'ai entendu de Schroen qui disait justement... Olivier Schroen, j'imagine que tu connais.
Oui.
Qui disait que, donc d'une part, il est édité chez Fantagraphics ou à l'Asso, mais il a quand même toujours un boulot d'auto-édition et que quand il savait qu'il travaillait pour être édité, il se mettait toujours une... Enfin, il se posait toujours la question de ce qui était acceptable, de ce qui allait être vendu ou de la perception de son travail. Et du coup, il avait quand même toujours besoin d'avoir à côté un peu d'auto-édition pour pouvoir aborder son travail de manière beaucoup plus libre et ne surtout pas se censurer. Et je me demandais si, vu ton travail, est-ce que... Donc, je ne savais pas que tu étais encore étudiante, mais est-ce que tu envisageais des publications plus conséquentes et du coup, oui, peut-être avec une relecture et peut-être un travail de censure, peut-être ou,
Disons que je ne m'attends plus à rien, parce que j'ai été publiée aux États-Unis grâce justement à mon Tumblr. Et ils ont voulu en fait publier justement le boulot que j'avais fait sans même imaginer que ça pouvait être grand public. Et c'est là que je me pose des questions sur les censures et sur ce qu'on peut présenter ou non, ce qui est acceptable, ce qui est publiable. Cette année, ouais, j'ai quand même fait le choix d'essayer de faire un boulot qui va être suivi chaque semaine par mes profs. Donc je profite encore de cette dernière année pour un projet que j'aimerais vraiment aboutir de 2 à 3 ans. Mmh. Et qui, celui-là, pour une fois, pourra toucher le public français plus qu'ailleurs. Mais disons que... Ouais, non, je commence maintenant à penser au public plus qu'à moi-même. Et donc, quand je fais une planche de BD, je vais chercher à droite, à gauche, voir si c'est lisible, si c'est compréhensible, si... J'ai envie de transmettre ce message, et juste d'avoir une espèce de dialogue, en fait, avec les gens qui le lisent plus que moi, donc... On va dire que mes rêves, par exemple, c'était vraiment personnel. C'était vraiment... Je m'en fiche. Si les gens ne comprennent pas, c'est juste ça m'a éclaté de le faire. Tandis qu'il y a d'autres BD où c'est vraiment pour les autres, plus que pour moi, que je l'ai fait.
Et est-ce que ça, c'est douloureux ou pas? Parce que dans le travail, c'est parfois facile de jeter un découpage ou de jeter une idée, de la faire exister comme ça. Mais parfois, c'est retravailler et vraiment, une fois qu'on a pointé les choses qui coincent un peu, là, vraiment, c'est là que parfois ça vient laborieux ou difficile ou qu'il y a des remises en question. Est-ce que tu connais ça, du coup?
J'ai connu ça en juillet. Je suis allée à un workshop à Leipzig avec Yacine et Mawil. où c'était 10 jours de workshop pour faire 4 planches de BD. Et effectivement, c'était chaque jour, chaque heure, chaque minute, revenir sur une case, sur un trait, sur... Et c'est quelque chose que je déteste. C'est vrai que quand je fais un dessin assez spontané, j'y touche plus. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai très vite, parce que je n'aime pas revenir à deux fois sur les trucs. Mais là, en fait, ce workshop, qui était douloureux donc au début, m'a permis de pondre, je pense, les 4 plus belles planches de ma vie, parce qu'elles ont été retravaillées, mais de haut en bas. Après, je suis incapable de faire ça pour un boulot de 40 pages. C'était quand même... En fait, c'est ouais, comme perdre du temps pour moi. Mais non, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui te remet dans le droit chemin, on va dire. Ou
qui canalise.
Qui canalise complètement, oui, parce qu'il y a un moment où tu réfléchis plus et ta main va toute seule. Et, donc oui, ça fait du bien. Je sais plus quelle était la question.
Non, ça va, on a fait le tour.
Dans le projet que tu fais sur 2 ou 3 ans, là, du coup, c'est que des planches spontanées. Parce que si, à la vitesse où tu vas, si tu tiens ce rythme pendant 2 ou 3 ans, c'est un bouquin qui va faire 4000 pages. Ou...
Oui, non, alors non, pas du tout. Au contraire, là, mon projet de maintenant, c'est remettre en image tout le voyage que mon père a fait quand il avait mon âge. Il a fait le tour du monde et je suis tombée sur ses carnets de voyage. Donc il y a, je dirais, 500 pages de descriptions de l'Inde, de la Chine, de la Russie dans les années 80. Et là, c'est plus un travail donc, de recherche. J'ai envie de retranscrire les pensées de mon père, mais de mon point de vue, donc déjà construire le personnage vis-à-vis de l'homme que j'ai toujours connu. Puis essayer, donc, avec beaucoup d'humour, parce que j'essaie vraiment de mettre de l'humour, c'est un point primordial dans mon travail, de re-raconter cette histoire et ce carnet de voyage. Donc au contraire, chaque planche va être vraiment réfléchie, les citations vont être directement tirées dans quelque chose qui a été vécu, et je vais essayer de reprendre le pays tel qu'il était par des recherches, non pas Google, mais par toutes les photos qu'il a prises par exemple, et vraiment inclure donc, le vécu dans ce projet qui va être partiellement fictionné, non, enfin, fictif.
Fictionnalisé.
Oui, voilà, donc il me porte à cœur, parce qu'effectivement, c'est une partie de mon père que je connaissais pas du tout avant d'avoir découvert ses carnets.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience de ce week-end? Alors, comme disait Christophe, on est à H+4, donc...
Oui, voilà. Bah non, alors je suis encore debout, mes yeux sont ouverts, tout va très bien. Les Salines Royales, bon, j'ai plein la vue, j'ai jamais vu un endroit aussi beau. Alors pour travailler, c'est compliqué, mais en même temps, c'est vrai que je me sens comme une princesse. Donc, tout va très bien, le café est à point. les BD sont lancés, je pense que l'ambiance à l'intérieur, on est tous très studieux. Il n'y a vraiment pas à se plaindre, et c'est l'ambiance que j'aime, parce qu'on n'a plus que ça en tête, plus que le dessin.
Quelle est la relation entre toi et l'association Shifumi? Qu'est-ce qui fait que tu as rejoint cette équipe de 16?
J'étais aux États-Unis l'année passée et j'ai appris que Shifumi partait à Minneapolis, là où j'ai stationné, là où j'ai été 2 ans, 2 mois. Et ça m'a intéressé parce que je n'avais absolument aucune idée qu'il y avait une collaboration Minneapolis-France-Besançon, notamment avec June, qui se faisait. Donc je me suis intéressée, j'en ai parlé à mon éditeur qui essayait de créer des liens et je me suis dit, bon, alors mon objectif de l'année, ce sera de rencontrer Julien et de savoir un peu plus ce que fait Shifumi, parce que c'est... Il vient d'arriver le gu. Mais non, parce que c'est vraiment quelque chose qui bouge, et tous les projets que j'ai vus depuis, d'après mes êtres intéressés, sont très bien, sont très aboutis, et touchent vraiment toute une scène de l'illustration française en plein essor, si je peux dire. Et j'ai vu l'annonce, donc je me suis dit je peux pas rater cette occasion, j'ai très envie de vivre ça et aussi de rencontrer donc, des nouvelles personnes et puis voir comment l'illustration avance aussi. Parce que c'est vrai que dans l'école, on reste vraiment, je vais pas parler de consanguinité, mais dans un petit milieu où on se connaît, on est 20, on bouge pas et j'ai plus envie de ça, j'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs.
C'est marrant parce qu'on fait souvent des blagues, même à la radio, parce qu'il y a une période où les gens qui sortaient de Strasbourg, nous on en parlait parce qu'on trouvait ça souvent super intéressant, mais il y a un moment où on pouvait les identifier au premier coup d'œil.
Oui.
Et comme ça, j'aurais pas dit... Je parlais d'Aïcha Franz, voilà, tu m'as fait penser à d'autres auteurs. Je me serais pas dit en voyant ton travail, ah, celle-là sort de Strasbourg. Donc voilà, t'as l'air d'avoir un profil un peu différent. Et tu disais aussi dans une interview que t'étais pas mal intéressée par l'underground américain.
Depuis ce voyage, oui, j'ai découvert Johnny Ryan, par exemple. Je suis en train de faire mon mémoire là-dessus, parce que quand j'ai lu sa première BD, j'ai pleuré de joie tellement j'ai trouvé ça merveilleux et du jamais vu. J'avais jamais vu ça en France avant. J'avais jamais lu une BD aussi, justement. Enfin, ce mec est dingue, quoi. il s'en fout de tout et il y va, mais à fond. Enfin, aucune censure pour le coup, aucun tabou. Il adore choquer, il y arrive à merveille. Il fallait que je fasse des pauses entre les pages pour réaliser ce que je disais, enfin, ce que je lisais. Et donc, pour moi, il a tout réussi. Et c'est devenu un de mes maîtres ultimes.
Il y a d'autres auteurs encore
J'ai rencontré Andy Burkholder, avec qui je m'entends très bien, et son dessin me passionne aussi beaucoup. Et c'est aussi, enfin, il arrive à avoir un univers vraiment à lui. On a du mal à y entrer, mais quand on y est, c'est... c'est l'osmose. Non, il est super drôle. Il fait beaucoup de blagues aussi. Mais la Levesvine, par exemple. Après, c'est vrai que j'identifie maintenant les travaux avec les gens que j'ai pu rencontrer. Et ça change toute ma vision du dessin, enfin, du travail d'une personne, une fois que je la connais humainement.
Oui, ça change toujours.
Il y a dans la bande dessinée toute une série de personnages qui sont vraiment des personnages, donc des gens qu'on rencontre, et en effet ils sont assez décoiffants. Ici à la radio on a reçu Hercil par exemple, qui est un type, c'est une espèce de personnage en soi, et à côté de ça il y a des gens qui ont des travaux complètement barrés, mais qui en fait sont des gens, quand on les rencontre on est presque déçus parce qu'ils sont d'une normalité absolument anormale quasiment. Je pense à des gens comme Bertoyas par exemple, qui sont des gentils nounours. Oui, alors après peut-être que sous le capot il y a des trucs donc voilà. Et donc, est-ce que toi, tu as l'air d'une jeune fille bien sous tout rapport? Est-ce que tu veux, dans les prochaines années, devenir une forme de personnage? Comment tu vas trouver ton chemin par rapport à ça?
Ça dépend des gens qui me connaissent. Enfin, on dit souvent que je ressemble à mes dessins. C'est vrai que les grimaces, je m'entraîne chaque matin devant mon miroir. Mais personnage, j'en sais rien. C'est aux autres de me le dire, parce que je le vis mal. Mais c'est vrai que je préférais vivre dans mes BD plutôt que dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je dessine aussi. C'est pour me créer ce monde dans lequel je me sens peut-être mieux. Et... ouais, non, je sais pas si je suis un personnage ou si je deviendrai.
Est-ce que tu as envie que les gens au supermarché s'adressent à toi normalement, ou est-ce que tout le monde est peur de
toi
dans le quartier?
Ah non, j'ai envie d'être une superstar, non? Marcher sur des diamants.
Aller dans un supermarché, tu rigoles.
Internet, mon gars. Ouais, non. Je sais pas. Parce que justement, la BD offre une part d'anonymat aussi qui est plutôt bien. Et, qu'on reconnaisse mon dessin et qu'on sache qui je suis, oui, mais alors humainement, non, je préfère aller faire mes courses au Simpli tranquille. J'ai pas besoin de ça non plus.
Où est-ce que tu penses qu'on va te retrouver dans quelques années? Tu parles
sur les autoroutes de Canada, bien sûr. Je vais avoir un camion. J'ai envie d'un Peterbilt et d'être camionneuse. C'est une partie de ma vie. Ça, c'est vraiment mon rêve ultime. Ma roue de secours, c'est la blague que je fais en soirée. Mais non, oui. Sans pour autant quitter l'illustration, parce que c'est une partie... Je sais pas, c'est comme un poumon aussi, mais j'ai envie de voir ailleurs, tout en essayant de mêler peut-être deux métiers très différents. Et conduire est pour moi... une passion aussi.
Tu avais dit tout à l'heure, mon éditeur, c'est...
Il s'appelle Rain Hogan, il fait partie de 2D Cloud, qui est une petite maison indépendante à Minneapolis. Et ils ont publié Blaise Larmé, Andy Burkholder, Maggie Amber, enfin beaucoup de gens qui commencent à monter. Et ils sont vraiment incroyables et très sympathiques.
Ils sont charmés,
comme dit Jeanne.
Eh bien, on va te laisser retourner
c'était incroyable.
À tes crayons.
Merci beaucoup.
Merci pour ton enthousiasme et toute ta générosité.
Oui, bon boulot.
Merci. Bonne journée.